auditeurs, auditrices de Vibration FM, bonjour. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Daniel Musso. Daniel, bonjour.
Bonjour.
Et avec vous, nous allons aborder, en tant qu'aumônier des prisons à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler plus particulièrement de la situation des détenus et de leurs familles, je pense, au parloir. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ?
Voilà, donc il me semblait qu'on pouvait parler du parloir, on en parle souvent. Et j'ai centré plutôt sur sa capacité de réinsertion. Je pourrais parler des heures et des heures du parloir. Voilà, alors le parloir, c'est un local qui est en dehors des lieux d'enfermement. Donc là, les personnes détenues peuvent rencontrer leur famille, leurs connaissances proches, en général. Il y a aussi à côté un parloir avocat. Donc tout ça, c'est à côté de la détention. Ceux de VLM sont particulièrement bien aménagés. Je dirais même qu'ils sont apaisants. Il y a deux artistes qui sont intervenus, Hervé Di Rosa et Jean Le Grac. Un jour, j'ai visité avec un directeur après une réunion annuelle d'évaluation qui était présidée par le préfet. Ce bref passage au parloir, après un bon moment de tension institutionnelle, m'avait fait du bien. Vraiment, j'avais l'impression d'être dans un musée. C'est bien décoré, c'est propre, c'est bien conçu. Donc, je suppose que ça peut avoir les mêmes effets sur les familles et sur les détenus. Donc c'est très important. Souvent, je rêve que l'on mette du gazon dans la cour de promenade, etc., à l'extérieur, justement pour que ça apaise les esprits. Alors, au parloir, on échange certes des propos, des mots, mais surtout, on entend des sonorités, on se voit, on se touche. Ce moment de vie s'inscrit donc dans un décalage total de la vie carcérale, qui exerce donc une coupure douloureuse avec son milieu d'origine. Donc le parloir, c'est les retrouvailles. Ces quelques généralités positives expriment le caractère primordial du passage au parloir. Les visiteurs et le visité rechargent leur batterie dans ces moments-là. C'est presque un retour à la vraie vie, mise entre parenthèses cependant. On peut comprendre que le premier souci soit l'accès au parloir sésame de beaucoup de choses. On peut constater des visus que la personne visitée est en bonne santé, que rien de grave n'y est arrivé. La violence carcérale, la maladie sont des réalités connues de tous. Les médias, en ce sens, font leur travail, mais peuvent provoquer une angoisse qui n'a pas lieu d'être le plus souvent. Mais, enfin, le malheur touche les autres, mais quelquefois aussi il vous touche. Et c'est vrai qu'il y a une réalité dangereuse en prison. Pour le primo arrivant, il s'agit de vérifier comment il réagit à cette mise à l'écart de la communauté. Être sous mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'on met en prison, ou en détention provisoire, enfin peu importe les termes, donc vous allez en prison. Consiste à employer ce temps à prouver son innocence ou sa relative culpabilité. Donc le temps du parloir est un temps où il se passe beaucoup de choses. Donc il faut dégager une énergie, une intelligence pour se positionner dans un système judiciaire compliqué. Et là, donc, c'est une période à venir que l'on organise. Quel avocat ? Où trouver l'argent ? Comment payer ? À qui demander de l'argent ? Enfin, plein de questions se posent. Hein ? De vie quotidienne. Hein ? Et la liste est très longue. Hein ? Et ça, on ne s'en aperçoit pas quand on est en liberté. Le travail, le chômage, les papiers, si vous êtes au RSA pour la famille. C'est très, très, très compliqué. Et tout ça, au parloir, peut être un enjeu si c'est bien réglé, si c'est bien vécu. Donc, l'organisation bancaire, la santé, les amis, les retombées médiatiques, le linge, vous pouvez arriver sans linge, donc la famille vous apporte du linge. Donc voilà, c'est l'arrivée au Le premier parloir, c'est et les premiers parloirs sont très très importants parce qu'il faut mettre tout ça en place. Bien sûr, la perte de liberté, de mouvement de la personne incarcérée, la place sous une dépendance totale. C'est risqué parce qu'on peut tomber dans l'assistanat, hein. Donc, il n'y a pas de rencontre possible avec ses interlocuteurs, il n'y a pas de téléphone. En principe, hein, puisqu'il y a les trois quarts des gens ont des téléphones mobiles dans leur cellule, c'est interdit, hein. Pas d'Internet. Et surtout, c'est le temps interminable qui se déroule entre chaque opération. Il faut tout le temps attendre. On est toujours dans l'incertitude. Donc, le parloir, pour moi, avant d'être une rencontre, ça reste un événement où beaucoup de choses se vivent en condensé. Et il faut savoir qu'une visite d'une heure, en fait, ça dure que 45 minutes. Il faut aller au parloir, en revenir, il faut s'installer, donc tout va très vite. Il peut y avoir des parloirs de 2 heures, mais c'est très compliqué à mettre en place, il faut que la famille soit au loin, enfin bon, c'est pas évident. Et surtout quand on a 900 personnes incarcérées au lieu de 600. Donc on parle de choc carcéral à l'arrivée de la détention. C'est à ce moment-là que le risque suicidaire est important. Et là, les statistiques le montrent, hein. Le choc intervient en écho sur ceux de l'extérieur, la famille. Pour moi, c'est clair, il y a les incarcérés du dedans et les incarcérés du dehors. La justice, on peut considérer, en France et ailleurs, est une machine à broyer du noir. Et la couleur de la robe des avocats nous le rappelle sans cesse. L'aumônier vit ses moments d'épreuve en essayant de ne pas être happé par la souffrance et le malheur. En même temps, il ne peut y être étranger. Ceux que nous côtoyons sont d'abord des frères et des sœurs. Quel peut être notre soutien, notre secours, sachant que nous n'avons pas à nous immiscer dans le dossier pénal? Donc c'est un équilibre total et constant. On a le droit d'informer, mais on n'a pas le droit de prendre position. Bon, tout le monde sait qu'en informant, je dirais, c'est une façon de prendre position. L'écoute, l'accompagnement des uns et des autres sont primordiales. L'espoir, la reconstruction, le pardon peuvent apparaître insignifiants, dangereux. Si cela ne s'inscrit pas dans une musique interrelationnelle, qu'il faut rejouer à chaque rencontre sans tomber dans une mièvre répétition, synonyme de fausse note. Pour simplifier, je dis que c'est des moments forts. Il faut certes du sentiment, mais il faut beaucoup d'intelligence dans ces moments-là. Et c'est très important. Alors. Pour moi, j'ai rajouté ça, j'avais oublié, la préparation parloir passe souvent par des questions. Je vous ai dit, des questions, c'est des questions conseils, hein. Comment va la famille? Parce qu'à la limite, la personne est tellement perdue qu'il ne pourra rebondir par rapport à sa situation que dans le lien familial. Comment recevez-vous au parloir? Pour moi, ça me semble important. C'est-à-dire que dans la mesure où on est sous tutelle presque, on est dans une forme d'assistanat, celui qui est incarcéré risque de devenir insupportable vis-à-vis des visiteurs. Et moi, je leur dis, vous recevez votre famille. Et comment vous faites? Donc, faire attention à ce que le parloir soit un moment de vie où chacun et dans sa dignité et sa responsabilité. Quelques exemples, hein. Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours, du moins, je l'espère pas trop souvent, car l'expérience de ces faits perdure malgré tout dans le temps. Brigitte, j'ai changé le prénom, hein, me disait, quand je vais à la prison pour le parloir, je longe les murs dehors comme si j'étais coupable de quelque chose, marqué par la faute de mon frère. Je ne pouvais supporter le regard hypothétique des passants. Certaines femmes me disaient, j'ai vendu des biens personnels, des vêtements, tout simplement parce que j'avais pas d'argent pour aller au parloir. Coûte cher d'aller au parloir. Pascal, sorti de prison, s'est pendu suite à une convocation de police. Nous avions fait le point une semaine avant et devions prendre une bière ensemble. Tout était sur les rails. Mais le fait d'aller au bureau de police, il se voyait en prison, il se voyait au parloir, et quand il ne me supportait pas, il a mis fin à ses jours. Alors que tout était réglé. Enfin, vraiment, on avait l'impression qu'il était sorti d'affaire. Donc il faut voir que l'expérience de la prison, du parloir, c'est quelque chose quand même qui reste marquant dans la vie des gens. Hein. Donc, je l'ai dit, j'ai encore dit hier à un stagiaire surveillant, la réalité n'est pas toujours celle que l'on voit, celle que l'on croit. Nos petits moyens, finalement, ne peuvent s'exercer que sous le sceau de la grâce dont nous avons bien besoin, je vous assure. Deuxième étape, c'est le parloir au long terme. Vous voyez que ça peut se vivre autrement, hein. Les choses sont mises en place avec l'avocat, il y a un rythme avec la famille, les amis. Mais là, d'autres difficultés, bien sûr, apparaissent. Elles étaient probables et prévisibles. Bon, les enfants fléchissent à l'école, ils n'obéissent pas. Certains dans la famille des amis vous tournent le dos. Les services sociaux, la justice s'emparent de votre vie privée. Les problèmes d'argent deviennent récurrents. Et j'entends souvent, c'est un classique, mon conjoint pète les plombs, il veut plus me voir. Voilà, ça c'est pour les longues peines, c'est vraiment très très courant. Le gars dit, bon, finalement, qu'elle refasse sa vie. Ce jour-là, il y a les parloirs fantômes. Les parloirs fantômes, c'est quand la personne ne vient pas. Alors là, c'est terrible. Parce que quand vous rentrez, le regard du surveillant peut être considéré comme un regard malveillant. C'est pas vrai. Mais bon, c'est difficile de revenir avec son sac et tout le monde voit bien que quelque chose n'allait pas, quoi. Bien sûr, il y a beaucoup de parloirs bienheureux. Ils vont cependant de pair avec une souffrance toujours sous-jacente. Ça, c'est le parloir, c'est quand même, je vous dis, un événement douloureux. Tous les petits bonheurs, donc, il faut savoir les prendre, les cultiver. Et là, je crois que nous avons un rôle à cet égard. Bien sûr, certains construisent au-delà de l'entendement, hein. Il y a des mères qui donnent naissance à des bébés parloirs. Moi, je me pose la question, est-ce que nous sommes dans une note d'espoir, dans une certaine forme de libération par rapport, je dirais, à la contrainte, ou victime d'une situation? C'est-à-dire, bon, la société ne m'empêchera pas de vivre, ou peut-être même je mets ma femme sous tutelle, puisque comme ça, elle a un enfant, elle n'ira pas courir ailleurs. Donc, normalement, un visiteur est considéré comme un élément équilibrant, structurant, au mieux pour la personne incarcérée. D'où, de la part de l'administration pénitentiaire, des refus concernant certains visiteurs. Moi, je me souviens d'un gars qui voulait voir son copain. On lui avait refusé. Et je comprenais très bien qu'il n'ait pas le droit de visite. Bon, il n'aurait rien apporté, si ce n'est que des embrouilles. Donc, actuellement, c'est un peu plus compliqué pour les sans-papiers, puisque c'est des gens qui normalement n'ont pas de famille. Mais je vois qu'il y a beaucoup de familles d'accueil, en quelque sorte. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui m'appellent pour intervenir. J'ai même une liste maintenant pour les sans-papiers à part. Tous les vendredis, après-midi, en général, je visite les sans-papiers. C'est une galère totale. Et là, la demande de parloir peut durer des mois. Bon, peut-être faire une pause si vous voulez.
Voilà, nous allons faire une pause musicale et nous retrouvons notre invité juste après. Alors, Daniel Musso a choisi le CD de Misa Criolla, Misa Flamenca, et nous écoutons le morceau Gloria. Amis auditeurs, auditrices, nous retrouvons notre invité Daniel Musso. Daniel est aumônier des prisons à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. Et en tant qu'aumônier, aujourd'hui, il nous parle plus particulièrement de cette phase capitale pour ces personnes détenues dans cette maison d'arrêt qui est l'événement qui se produit au parloir. Vous avez abordé tout à l'heure le premier parloir. Et maintenant, vous étiez en train de nous parler du parloir au long terme, c'est-à-dire voilà. Durant l'incarcération.
Donc là, un exemple très, très, très pénible, très difficile. Hein, c'est un surveillant qui m'avait signalé ce garçon. Vous voyez comme quoi tout le monde est dans la bienveillance. Hein. Et lorsque sa mère le visitait, il revenait dans tous ses états. Tous ses états. Et il avait l'impression que son dossier était instruit à charge, c'est-à-dire quand il était reçu par le juge, tout était contre lui. Alors, il y a deux temps, à charge et à décharge. Donc j'avais dit, attendez, les choses vont venir. Et la première fois, il a pris les cachets, c'était la bonne. Alors là, je m'étais posé la question de faire un signalement. Enfin, en principe, il y a des gens dont c'est le travail. À chaque fois qu'il voit sa mère, il est dans tous ses états. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Mais nous sommes tenus quand même à une certaine discrétion, à un certain secret. On ne doit pas marcher sur les plates-bandes des autres. Donc, voilà, on mesure une certaine impuissance que des fois aussi. Hein. Voilà. Mais dernièrement, j'avais quelques éléments concrets. J'ai pu dire à une maman, aimer son enfant, ce n'est pas accéder à toutes ses demandes. Quand il est question d'addiction, c'est terrible. Tout passe en prison. Hein. Voilà. Et elle l'a accepté. Hein. Et j'en ai discuté avec lui, d'ailleurs, avec ce jeune-là, dernièrement. Il a une sortie catastrophique. Je ne sais pas. Honnêtement, je crains le pire. Je ne peux pas en dire plus. Je ne peux pas en dire plus, mais... Bon, je crains le pire. La période, donc troisième temps, de fin de peine, que je connais mal en ce qui concerne les longues peines, n'ouvre pas l'accès au paradis, loin de là. On s'habitue au malheur. Et pourtant, une autre vie est à reconstruire. Dans notre jargon, on parle de réinsertion. Donc on passe d'une histoire faite de frustration, entre parenthèses, pour s'inscrire dans un monde dont vous avez perdu beaucoup de codes, et je dirais même les contours de ce monde. Alors je fais rêver quelquefois, par exemple pour les gens de Montpellier, je parle de la route de la mer, des constructions, des projets, etc., du printemps, enfin vous voyez. Parce que quand même, quand vous êtes dans votre cellule, dehors, vous ne voyez que des cailloux ou des détritus. Ça peut être très concret d'être aumônier. C'est de parler de la vie de tous les jours, dans ce qui peut apporter, je dirais, un peu de joie intérieure. La vigilance des familles, des connaissances, qui n'en reste en tout cas, me semble utile dans ces parloirs. On peut y préparer l'avenir. Pour moi, donc, hein, puisque j'ai centré parloir et insertion, un bon parloir, c'est un lieu où le sentiment a toute sa place, et je dirais c'est essentiel, mais aussi où l'on construit. Faut savoir qu'au départ, 70% des familles vont voir les personnes au parloir, et plus le temps passe, plus ça diminue. Et en général, pour une longue peine, il n'y a à peu près que 50% des familles qui visitent. Donc sachez qu'au départ, il y a 30% des gens qui ne sont pas visités. Donc je fais office de parloir dans les cellules, probablement. Ça me fait penser là, à l'instant à une maman. C'est délicieux. Elle ne voulait pas voir son fils en prison, ni lui écrire. Mais elle m'appelait toutes les semaines pour savoir comment son fils allait. Et son fils, lui, puisqu'il n'avait pas l'adresse de la maman, il était puni par la maman. Il lui écrivait toutes les semaines. Et quand il est sorti de prison, il avait une boîte de chaussures pleine de lettres. Un jour, je lui demande, parce qu'on avait gardé le contact, tu as donné la lettre, les lettres à ta mère? Non, c'est pas encore le moment. Et les choses ont été mieux, et pendant quelques années, elle m'a appelé pour donner des nouvelles de son fils. Oui, c'est ce que j'appelle faire le parloir, c'est entre les deux. Mais c'est une belle histoire, je trouve. Voilà. Où est-ce que j'en suis? Donc, il faut préparer l'avenir, hein. C'est important pour moi. Il ne faut pas baisser les bras. Et ça... Je crois qu'il n'y a guère que les aumôniers qui peuvent se situer dans l'espoir. Je dirais envers et contre tout. Enfin, pour ma part, j'ai des expériences de santé, donc ça doit aider aussi, hein, d'avoir été un condamné à mort plusieurs fois et d'être toujours là, ouais, et bien en vie. Mais je crois qu'on a à peu près, je le vois bien qu'il y a du désespoir, même de la part de certains qui devraient avoir de l'espoir, notamment les travailleurs sociaux. Donc, l'espoir, c'est vraiment ce qui peut faire vivre, mais l'espoir avec un contenu, hein, pas l'espoir, comme je disais, mièvre, hein, des bons sentiments, du pleurnichement. Non, il faut construire. Donc, je veille à ça et je peux vous assurer que je suis très, très ferme. Une sortie, ça se prépare. Et il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas que la rédemption, hein. Il y a, donc, est-ce qu'il y a la carte d'identité ? Est-ce que vous avez votre carte vitale? Est-ce que les papiers sont faits par rapport à Pôle emploi pour une allocation d'adulte de temporaire d'attente? Est-ce que le logement s'est réglé? Les soins, les dettes, la partie civile? Et je peux vous assurer qu'en dehors donc du travail d'aumônerie en interne, je suis des gars à l'extérieur, quand ça n'est pas réglé, et malheureusement, ça arrive que ça ne s'est pas réglé, c'est une catastrophe. Parce que si vous n'avez pas de papier, les droits ne sont pas ouverts. Vous ne pouvez pas avoir une formation si, en sortant de prison, vous n'êtes pas inscrit à Pôle emploi, vous n'avez pas de carte d'identité. J'en ai un, ça fait 4 ans, il n'a pas encore de carte de sécu. Voilà. Donc, je veille à ça. Enfin, je suis ça de très très près. Vous voyez, ce n'est pas uniquement spirituel. Mais moi, je leur dis souvent, je vous casse les pieds, mais c'est l'amour que j'ai pour vous qui fait que je m'inquiète. Et bon, voilà, c'est comme ça que Jésus-Christ passe. Donc, il faut se soucier un peu des uns et des autres. Et c'est vrai que bon, j'ai beaucoup d'appels des familles, beaucoup d'écoute. Hein, c'est quelquefois très, très dur. J'en ai un ou deux, honnêtement. Ils ont un tel âge, ils ont plus de 80 ans, que j'aide la famille, je dirais, à accepter la mort, soit en prison, soit à l'extérieur, à préparer le cimetière, à préparer, voilà. Donc, voyez bien que un parloir, après avoir visité votre mari qui a plus de 80 berges, bah forcément, j'ai derrière un coup de téléphone. Il faut remonter les choses et écouter les gens. Enfin bon. Donc, on a une place hein, dans ce centre-jeu visiteur-visité qui me semble important. Moi, je l'accepte, sachant que je reste dans ma place. C'est-à-dire, je ne rentre jamais dans les histoires, je dirais, liées aux problèmes juridiques. Je peux donner un conseil en disant, là, il me semble que quelque chose n'a pas été fait. Voyez avec votre avocat. Mais ça s'arrête là. Alors, du concret, là j'ai donné les généralités. Alors, comment on arrive au parloir? Alors, il y a deux. Alors, pour le prévenu, c'est-à-dire celui qui n'est pas jugé, hein, qui est en mandat de dépôt, faut passer par le tribunal de grande instance. Pour celui qui a été condamné, on peut passer par le directeur de la maison d'arrêt chez nous. Alors, l'attente, on dit que ça fait une semaine à plusieurs mois. Peut prendre une année. Donc, le rythme des parloirs, c'est quand vous êtes prévenu, puisque vous êtes supposé innocent, c'est 3 fois par semaine. Et quand vous êtes condamné, c'est une fois par semaine. Donc, quand c'est une fois par semaine, après, c'est pénible, parce que si jamais la personne ne peut pas, si elle habite loin, bon, il y a des gens, ils voient leur famille que tous les mois, tous les 2 mois, pas plus, hein. Et je vous dis, très très vite, vous avez 40, même en maison d'arrêt, 40% de gens qui n'ont pas de parloir, qui n'ont pas de visite de la famille en tout cas. Alors, il peut y avoir des visiteurs, hein, quand même. La réservation depuis quelques années, moi je trouve que c'est une mauvaise organisation. Elle se fait par téléphone entre 9h et 12h. Alors quand vous avez 600 personnes qui demandent ça. Ça peut se faire peut-être, et encore, je ne vois pas comment. Mais quand vous avez 900 personnes incarcérées, ça tient. Alors actuellement, tous les téléphones sont surchargés, parce que si on ne peut pas avoir le bon téléphone, on appelle ailleurs. Et c'est un bazar total. Je pense qu'il faudrait qu'ils changent leur système, là. Donc, dans les premiers parloirs, ce qui est important, c'est le portage du linge, vous voyez. Alors maintenant, c'est un peu plus facile pour les lunettes, on a le droit de les apporter. Avant, on ne pouvait pas. Il fallait passer par l'aumônier, il fallait passer par l'unité sanitaire. C'était très compliqué. Donc, les choses sont quand même un peu améliorées. Il faut savoir que le manquement au règlement en parloir ou à l'arrivée du parloir passe tout de suite par le procureur de la République. Sachez que, par exemple, une maman, là, je viens de donner encore le conseil cette semaine à la maman, j'ai dit surtout pas de paquet de cigarettes. Parce que ça déclenche l'alarme et là, vous perdez le parloir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça dépend de la situation de la personne incarcérée. Voilà. Parce que tout le monde est puni. Enfin, je veux dire, il faut savoir. Hein. Le système est pervers. Hein. Je pense qu'on met trop de gens tout de suite en prison. On pouvait les laisser à l'extérieur parce que, bon, c'est pas des gens dangereux. Bon, à la fin d'un parloir. Une personne détenue peut faire l'objet d'une fouille. Et je peux vous assurer que se retrouver tout nu, courbé, etc., on n'a pas le droit de palper, hein, ou alors il faut chercher voir un médecin, etc. Mais c'est très, très humiliant. Et certains même refusent. Donc, quand vous arrivez au parloir, vous passez au détecteur, hein, faut le savoir, hein. Et là, si. Donc c'est le parloir d'entrée, vous voyez, demande très difficile, entrée très difficile, sortie très difficile aussi, parce que la séparation, je dirais, d'avec le visité n'est pas toujours évidente.
Merci beaucoup, Daniel Musso. Nous arrivons au terme de cette émission et je pense que nous vous réinviterons dès que vous le pouvez, parce que je crois qu'il est important que nos auditeurs, auditrices prennent bien conscience que même si la justice fait son travail, ces personnes restent des personnes. Et du coup, vous êtes leurs yeux, leur lien avec l'extérieur et vous leur apportez beaucoup. Donc, merci de témoigner ici de l'engagement que vous avez auprès de ces personnes détenues et de leurs familles. Nous l'avons bien entendu. Merci, à samedi prochain et merci voilà. À David qui était à la régie.
Merci.
Au revoir,
à vous
Daniel.
Aussi.